Cinquième partie, chapitre 30. Au cœur d'Istanbul, sous le ciel de novembre. Le dédale des vieilles rues, bien entendu pleines de silence, et aux pavés sertis d'herbes funèbres, sous les nuages bas et obscurs. L'enchevêtrement des maisons en bois, jadis peintes d'ocre sombre, toutes déjetées, toutes de travers, avec toujours leurs fenêtres à double grillage imperméables au regard. Et c'était tout cela, tout ce délabrement, toute cette vermoulure, qui, vue de loin, figurait dans son ensemble une grande ville féerique, mais qui, vue en détail, eut fortement déçu les touristes des agences. Pour André, toutefois, et pour quelques autres comme lui, ces choses, même de près, gardaient leur charme, fait d'immuabilité, de recueillement et de prière. Et puis, de temps à autre, un détail exquis, un groupe de tombes anciennes, très finement ciselées à un carrefour, sous un platane de 300 ans, ou bien une fontaine en marbre aux arabesques d'or presque éteint. André, coiffé du fez des Turcs, s'engageait dans ces quartiers d'après les indications d'une carte faite par Melek, avec notes à l'appui. Une fois, il s'arrêta pour contempler l'une de ces nichées de petits chiens errants qui pullulent à Constantinople et auxquels les bonnes âmes du voisinage avaient, comme d'habitude, fait l'aumône d'une litière en guenille et d'un toit en vieux tapis. Il gîtait là-dessous avec des minois aimables et joyeux. Cependant, il ne les caressa point de peur de se trahir, car les Orientaux, s'ils sont pleins de pitié pour les chiens, dédaignent de les toucher et réservent pour les chats leur câlinerie. Mais la maman vint quand même ramper devant lui, en faisant des grâces pour bien marquer à quel point elle se sentait honorée de son attention. La quatrième maison à gauche, après un kiosque funéraire et un cyprès, était le lieu où le convoquait aujourd'hui le caprice de ses trois amis. Un domino noir, au voile baissé et qui semblait n'être pas Melek, l'attendait derrière la porte entr'ouverte, le fit monter, sans mot dire, et le laissa seul dans un petit salon très oriental et très assombri par des grillages de harem. Divan tout autour et inscriptions d'islam décorant les murailles. À côté, on entendait des chuchotements, des pas légers, des froufrous de soie. Et quand le même domino inconnu revint l'appeler d'un signe et l'introduisit dans la salle proche, il put se croire Aladdin entrant dans son sérail. Ces trois austères petits fantômes noirs d'autrefois étaient là, métamorphosés en trois odalisques, qui étincelaient de broderies d'or et de paillettes avec une magnificence adorablement surannée. Des voiles anciens de la Mecque, en gaze blanche, toute pailletée, tombaient derrière elles sur leurs épaules, enveloppant leurs cheveux arrangés en longues nattes. Debout, le visage tout découvert, incliné devant lui comme devant le maître, elles lui souriaient avec leur fraîche jeunesse aux gencives roses. C'étaient les costumes, les bijoux des aïeuls, exhumés pour lui des coffres de cèdre. Encore avait-elle su, avec leur tact d'élégante moderne, choisir parmi les satins doucement fanés et les archaïques fleurs d'or brodées en relief pour composer des assemblages particulièrement exquis. Elle lui donnait là un spectacle que personne ne voit plus et auquel ses yeux d'Européens n'auraient jamais osé prétendre. Derrière elle, plus dans l'ombre et rangée sur les divans, cinq ou six complices, discrètes, se tenaient immobiles, uniformément noirs en chaf-chaf et le voile baissé, leur silencieuse présence augmentant le mystère. Tout cela, qu'on n'eût fait pour aucun autre, était d'une audace inouïe, d'un stupéfiant défi au danger. Et l'on sentait autour de cette réunion défendue la tristesse attentive d'Istanbul enveloppé dans la brume d'hiver, la muette réprobation d'un quartier plein de mosquées et de tombeaux. Elles s'amusèrent à le traiter comme un pacha et dansèrent devant lui, une danse des grands-mères dans les plaines de Karadjiamir, une danse très chaste et très lente, avec des gestes de bras nus, une pastorale d'Asie que leur jouait sur un luth dans l'ombre au fond de la salle, une des femmes voilées. Souples, vives et faussement languissantes, elles étaient redevenues sous ces costumes de pures orientales, ces trois petites extras cultivées, alors si inquiètes, qui avaient médité Kant et Schopenhauer. « Pourquoi n'êtes-vous pas gaie aujourd'hui ?» demanda Jenan tout bas à André. « Cela vous ennuie, ce que nous avions imaginé pour vous ?»« Mais vous me ravissez, au contraire. Mais je ne verrai jamais rien d'aussi rare et d'aussi délicieux. Non, ce qui m'attriste, je vous le dirai, quand les dames noires seront parties. Si cela vous rend songeuse, peut-être, au moins, je suis sûr que cela ne vous fera pas de peine. » Les dames noires ne restèrent qu'un moment. Parmi ces invisibles, qui étaient toutes des révoltées, il va sans dire, André reconnut à leur voix, dès que la conversation commença, les deux jeunes filles qui étaient venues un jour à Sultan Selim, celles qui avaient une allure française et rêvaient d'une évasion. Melek les pressait de relever aussi leur voile par bravade contre la règle tyrannique. Mais elles refusèrent, disant avec un gentil rire, « Vous avez bien mis 6 mois, vous, à relever le vôtre. » Il y avait aussi une femme vraisemblablement jeune qui parlait le français comme une parisienne et que le livre promis par André Léry passionnait beaucoup. Elle lui demanda, « Vous voulez sans doute, et c'est ce que nous voudrions aussi, nous, prendre la femme turque au point actuel de son évolution. Eh bien, pardonnez à une ignorante petite orientale de donner son avis à André Léry. Si vous écrivez un roman impersonnel en le faisant tourner autour d'une héroïne ou d'une groupe d'héroïnes, ne risquez-vous pas de ne plus rester l'écrivain d'impulsion que nous aimions tant ? Si cela pouvait être plutôt une sorte de suite à Medjé, votre retour en Orient, à des années de distance. Je lui avais exactement dit cela, interrompit Jenan, mais j'étais si mal accueilli que je n'ose plus guère lui exposer mes petites idées sur ce livre. Mal accueilli, oui, répondit-il en riant. Mais malgré cela, ne vous ai-je pas promis que, sauf me mettre en scène, je ferai tout ce que vous voudriez. Alors exposez-les-moi, bien au contraire, vos idées aujourd'hui même. Et les dames fantômes qui nous écoutent consentiront peut-être à y joindre aussi les leurs. » Le roman ou le poème d'amour d'une orientale ne varie guère, reprit la dame noire qui avait déjà parlé. Toujours ce sont des lettres nombreuses et des entrevues furtives. L'amour plus ou moins complet et au bout la mort. Quelquefois, mais rarement, la fuite. Je parle bien entendu de l'amour avec un étranger. Le seul dont soit capable l'orientale cultivée, celle d'aujourd'hui, qui a pris conscience d'elle-même. Bon, combien la révolte vous rend injuste pour les hommes de votre pays, essaya de dire André. Rien que parmi ceux que je connais, moi, je pourrais vous en citer de plus intéressants que nous, et de plus. La fuite, non, interrompit Jenan. Mettons. « Seulement la mort. » Je reviens à ce que je proposais l'autre jour à M. Léry. Pourquoi ne pas choisir une forme qui lui permette, sans être absolument en scène, de traduire ses propres impressions ? Celle-ci, par exemple. Un étranger qui lui ressemblerait comme un frère. Un homme gâté comme lui par la vie et un écrivain très lu par les femmes, revient un jour à Istanbul, qu'il a aimé jadis. Y retrouve-t-il sa jeunesse, ses enthousiasmes ? À vous de répondre, monsieur Léry. Il y rencontre une de nos sœurs qui lui aurait écrit précédemment, comme tant d'autres pauvres petites, éblouies par son auréole. Et alors, ce qui, il y a 20 ans, fut devenu de l'amour, n'est plus chez lui que curiosité artistique. Oh, bien entendu, je ne ferai pas de lui un de ces hommes fatals qui sont démodés depuis 1830, mais seulement un artiste qu'amusent des impressions nouvelles et rares. Il accepte donc les entrevues successives parce qu'elles sont dangereuses et inédites. Et que peut-il en advenir? L'amour. Mais en elle, pas en lui, qui n'est qu'un dilettante et qui ne voit là-dedans qu'une aventure. Ah non, dit-elle tout à coup en se levant avec une impatience enfantine. Vous m'écoutez là, vous me faites pérorer comme un bas-bleu. Tenez, je me sens ridicule. Plutôt, je vais danser encore une danse de mon village. Je suis en odalisque et ça m'ira mieux. Toi, Shalendé, je t'en prie, joue cette ronde des pastours que nous répétions avant l'arrivée de Monsieur Léry, tu sais. Et elle voulut prendre ses deux sœurs par la main pour danser. Mais les assistantes protestèrent, réclamant la fin du scénario. Et pour la faire se rasseoir, elles s'y mirent toutes, aussi bien les deux autres petites houris pailletées d'or que les fantômes en deuil. Oh, vous m'intimidez à présent. Vous m'ennuyez bien. La fin de l'histoire, mais il me semble qu'elle était finie. N'avions-nous pas dit tout à l'heure que l'amour d'une musulmane n'avait d'autre issue que la fuite ou la mort, eh bien. Mon héroïne à moi est trop fière pour suivre l'étranger. Elle mourra donc, non pas directement de cet homme, mais plutôt, si vous voulez, de ces exigences inflexibles du harem qui ne lui laissent pas le moyen de se consoler de son amour et de son rêve par l'action. André la regardait parler. Aujourd'hui, son aspect d'odalisque, dans ses atours qui avaient 100 ans, rendait plus inattendu encore son langage. Ses prunelles vert sombre restaient levées obstinément vers le vieux plafond compliqué d'arabesque, et elle disait tout cela avec le détachement d'une personne qui invente un joli conte mais ne saurait être mise en cause. Elle était insondable. Ensuite, quand les dames noires s'en furent allées, elle s'approcha de lui, toute simple et confiante, comme une bonne petite camarade. Et maintenant qu'elles sont parties, qu'avez-vous? Ce que j'ai, vos deux cousines peuvent l'entendre, n'est-ce pas? Certainement, répondit-elle à demi blessée. Quel secret pourrions-nous avoir vis-à-vis d'elle, vous et moi? Ne vous ai-je pas dit dès le début que toutes les trois, nous ne serions jamais pour vous qu'une seule âme? Eh bien, j'ai qu'en vous regardant, je suis charmé et presque épouvanté par une ressemblance. L'autre jour, déjà, quand vous avez levé votre voile pour la première fois, ne m'avez-vous pas vu reculer devant vous? Bien, je retrouvais le même ovale du visage, le même regard, les mêmes sourcils qu'elle avait coutume de rejoindre par une ligne de nez. Et encore, cette fois-là, je ne connaissais pas vos cheveux, pareils aux siens que vous me montrez aujourd'hui, nattés comme elle avait coutume de faire. Elle répondit d'une voix grave. Ressembler à votre Nejibé, moi? Oh, j'en suis aussi troublé que vous, allez. Et si je vous disais, André, que depuis 5 ou 6 ans, c'était mon rêve le plus cher? Ils se regardaient profondément, muets l'un devant l'autre. Les sourcils de Jane Ann s'étaient un peu relevés, comme pour laisser les yeux s'ouvrir plus larges, et ils voyaient luire ses prunelles, couleur de mer sombre. Tandis que les deux autres jeunes femmes, dans ce harem où commençait hâtivement le crépuscule, se tenaient à l'écart, respectant cette confrontation mélancolique. Restez comme vous êtes là, ne bougez pas, André, dit-elle tout à coup. Et vous deux, venez le regarder, notre ami. Placé, éclairé comme il est, on lui donnerait à peine 30 ans. Lui, alors, qui avait tout à fait oublié son âge, ainsi qu'il lui arrivait parfois, et qui se faisait à ce moment l'illusion d'être réellement jeune, reçut un coup cruel, se rappela qu'il avait commencé de redescendre la vie, et que c'est la seule pente inexorable, qu'aucune énergie n'a jamais remontée. Mais qu'est-ce que je fais? Se demande-t-il auprès de ces étranges petites qui sont la jeunesse même, si innocentes qu'elles puissent être, l'aventure où elles m'ont jeté. Oh, ce n'est plus une aventure pour moi. Il les quitta, plus froidement peut-être que d'habitude, pour s'en aller si seul par la ville immense où baissait le jour d'automne. Il avait à traverser combien de quartiers différents, combien de foules différentes, et des rues qui montaient, des rues qui redescendaient, et tout un bras de mer avant de regagner sur la hauteur de Péra, son logis de hasard qui lui parut plus détestable et plus vide que jamais à la nuit tombante. Et puis, pourquoi pas de feu chez lui, pas de lumière? Il demanda à ses domestiques turcs chargés de ce soin. Son valet de chambre français, qui s'empressait pour les suppléer, arriva levant les bras au ciel. Tous partis, faire la fête! C'est le carnaval des Turcs qui commence ce soir. Pas moyen de les retenir. Ah, il avait oublié, en effet. On était au 8 novembre, qui correspondait cette année avec l'ouverture de ce mois de Ramadan, pendant lequel il y a jeûne austère tous les jours, mais naïve réjouissance et illumination toutes les nuits. Il alla donc à une de ses fenêtres qui regardait Stamboul, pour savoir si la grande féerie qu'il avait connue dans sa jeunesse, un quart de siècle auparavant, se jouait encore en l'an 1322 de l'Égir. Eh bien oui, c'était bien cela. Rien n'avait changé. L'incomparable silhouette de ville, là-bas, dans l'imprécision nocturne, commençait de briller sur plusieurs points, s'illuminait rapidement, partout à la fois. Tous les minarets qui venaient d'allumer leur double ou triple couronne lumineuse ressemblaient à de gigantesques fuseaux d'ombre portant à différentes hauteurs dans l'air des bagues de feu. Et des inscriptions arabes au-dessus des mosquées se traçaient dans le vide, si grandes et soutenues par de si invisibles fils, que dans ce lointain et cette brume, on les eût dites composées avec des étoiles, comme les constellations. Alors il se rappela que Stamboul, la ville du silence, tout le reste de l'année, était, pendant les nuits du Ramadan, pleine de musique, de chants et de danse. Parmi ces foules, il est vrai, on n'apercevait point les femmes, pas même sous leur forme ordinaire de fantôme qui est encore jolie, puisque toutes, depuis le coucher du soleil, devaient être rentrées derrière leurs grilles. Mais il y aurait 1000 costumes de tous les coins de l'Asie, et des narguilés, et des théâtres anciens, et des marionnettes, et des ombres chinoises. D'ailleurs, l'élément Pérotte, autant par crainte des coups que par inepte incompréhension, n'y serait aucunement représenté. Donc, oubliant encore une fois le nombre de ces années qu'il avait rembrunies tout à l'heure, il reprit son fez et, comme ses domestiques turcs, s'en alla vers cette ville illuminée, de l'autre côté de l'eau, faire la fête orientale. Chapitre 31. Le 12 novembre, 4 du Ramadan, fut le jour enfin de cette visite ensemble à la tombée de Nedjibé, qu'ils projetaient entre eux depuis des mois, mais qui était bien une de leurs plus périlleuses entreprises. Il l'avait jusqu'ici différé à cause de sa difficulté même et à cause de tant d'heures de liberté qu'elle exigeait, le cimetière étant très loin. La veille, Djenan, en lui donnant ses dernières instructions, lui avait écrit: « Il fait si beau et si bleu ce matin, j'espère de tout cœur que demain aussi nous sourira. » Et quant à André, il s'était toujours imaginé ce pèlerinage s'accomplissant par une de ces immobiles et nostalgiques journées de novembre, où le soleil d'ici donne par surprise une tiédeur de serre dans ce pays en somme très méridional, apporte une illusion d'été et puis fait Stamboul tout rose le soir, et plus merveilleusement rose encore l'Asie qui est en face, à l'heure du Maghreb, pour un instant fugitif avant la nuit qui ramène tout de suite le frisson du nord. Mais non, quand s'ouvrir ses contrevents le matin, il vit le ciel chargé et sombre. C'était le vent de la mer Noire, sans espoir d'accalmie. Il savait du reste qu'à cette heure même, les jolis yeux de ses amis cloîtrés devaient aussi interroger le temps avec anxiété à travers les grillages de leurs fenêtres. Il n'y avait pas à hésiter, cependant, tout cela ayant coûté tant de peine à combiner, avec l'aide de complicités payées ou gratuites, que l'on ne retrouvait peut-être plus. À l'heure dite, 1h30, en fez et le chapelet à la main, il était donc à Stamboul, à Sultan Fatli, devant la porte de cette maison de mystère, où 4 jours plus tôt elle l'avait reçue en odalisque. Il les trouva prêtes, toutes noires, impénétrablement voilées. Chahende Hamoum, la dame inconnue de Séan, avait voulu aussi se joindre à elle. C'étaient donc 4 fantômes qui se disposaient à le suivre, 4 fantômes un peu émus, un peu tremblants de l'audace de ce qu'on allait faire. André, à qui reviendrait de prendre la parole en route, soit avec les cochers, soit avec quelques passants imprévus, s'inquiétait aussi de son langage, de ses hésitations peut-être, ou de son accent étranger, car le jeu était grave. « Il vous faudrait un nom turc, dirent-elles, pour le cas où nous aurons besoin de vous parler. » « Eh bien, dit-il, prenons Arif, sans chercher plus. » Jadis, je m'amusais à me faire appeler Arif Effendi. Aujourd'hui, je peux bien être monté en grade. Je serai Arif Bey. L'instant d'après, chose sans précédent à Stamboul, ils cheminaient ensemble dans la rue, l'étranger et les 4 musulmanes. Arif Bey et Soharem. Un vent inexorable amenait toujours des nuages plus noirs, charriait de l'humidité glacée. On était transi de froid. Melek seul restait gai et appelait son ami. « Ikiz noubim fendim, monsieur le beym, 2 yeux, une locution hésitée qui signifie « monsieur le bey, qui m'est aussi cher que la vue ». Et André lui en voulait de sa gaieté parce que la figure de la petite morte, ce jour-là, se tenait obstinément présente à sa mémoire, comme posée devant lui. Arrivés à une place où stationnaient des fiacres, ils en prirent 2, un pour le bey, un pour ses 4 fantômes, les convenances ne permettant guère à un homme de monter dans la même voiture que les femmes de son harem. Un long trajet à la file à travers les vieux quartiers fanatiques, pour arriver enfin, en dehors des murs, dans la solitude funèbre, dans les grands cimetières, à cette saison plein de corbeaux sous les cyprès noirs. Entre la porte d'Andrinople et Ayoub, devant les immenses murailles byzantines, ils descendirent de voiture, la route jadis dallée n'étant plus possible. À pied, ils longèrent un moment ces remparts en ruine. Par les éboulements, par les brèches, des choses de Stamboul se montraient de temps à autre, comme pour mieux imposer à l'esprit la pensée de l'islam, ici dominateur et exclusif. C'était, plus ou moins dans le lointain, quelqu'une des souveraines mosquées, dômes superposés en pyramides, minarets qui pointaient du sol comme une gerbe de fuseau blanc sous le ciel noir. Et ce lieu d'imposante désolation, où André passait avec les 4 jeunes femmes voilées de deuil pour accomplir le pieux pèlerinage, était précisément celui où jadis, 15 siècles auparavant, Nedjibé et lui avaient fait leur seule promenade de plein jour. C'était là que tous deux, si jeunes et si enivrés l'un de l'autre, avaient osé venir comme 2 enfants qui bravent le danger, Là, qu'ils s'étaient arrêtés une fois au pâle soleil d'hiver pour écouter chanter dans les cyprès une pauvrette de mésange qui se trompait de saison. Là que, sous leurs yeux, on avait enterré certaines petites filles grecques au visage de cire. Et plus d'un quart de siècle avait passé sur ces infimes choses, uniques pourtant dans leur existence et ineffaçables dans la mémoire de celui des deux qui continuait de vivre. Ils quittèrent bientôt le chemin qui longe ces murailles de Byzance pour s'enfoncer en plein domaine des morts, sous un ciel de novembre singulièrement obscur, au milieu des cyprès, parmi la peuplade sans fin des tombes. Le vent de Russie ne leur faisait pas grâce, leur cinglait le visage, les imprégnait d'humidité toujours plus froide. Devant eux, les corbeaux fuyaient sans hâte en sautillant. Apparurent les stèles de Nedjibé, ces stèles encore bien blanches qu'André désigna aux jeunes femmes. Les inscriptions, redorées au printemps, brillaient toujours de leur éclat neuf. Et à quelques pas de ces humbles marbres, les gentils fantômes visiteurs, s'étant immobilisés spontanément, se mirent en prière dans la pose consacrée de l'islam qui est les deux mains ouvertes et comme tendues pour quêter une grâce, en prière fervente pour l'âme de la petite morte. C'était si imprévu d'André et si touchant ce qu'elle faisait là qu'il sentit ses yeux tout à coup brouillés de larmes et de peur de le laisser voir, il resta à l'écart, lui qui ne priait pas. Ainsi, il avait réalisé ce rêve qui semblait si impossible, faire relever cette tombe et la confier à d'autres femmes turques capables de la vénérer et de l'entretenir. Les marbres étaient là, bien debout et bien solides, avec leur dorure fraîche. Les femmes turques étaient là aussi, comme des fées du souvenir, ramenées auprès de cette pauvre petite sépulture longtemps abandonnée. Et lui-même y était avec elle en infime communion de respect et de pitié. Quand elles eurent fini de réciter la Fatiha, elles s'approchèrent pour lire l'inscription brillante. D'abord la poésie arabe qui commençait sur le haut de la stèle pour descendre en lignes inclinées vers la terre. Ensuite, tout au bas, le nom et la date. Une prière pour l'âme de Nedjibe Hanum, fille de Ali Jahangir Efendi, morte le 18 Chaban 1297. Les Circassiens, contrairement aux Turcs, ont un nom patronymique, ou plutôt un nom de tribu. Et Djenan a pris là, avec une émotion intime, le nom de la famille de Djedjibe. Mais, dit-elle, les Djangirs habitent mon village. Jadis, ils sont venus du Caucase avec mes ancêtres. Voici 200 ans qu'ils vivent près de nous. Cela expliquait bien mieux encore leur ressemblance bien étonnante pour n'être qu'un signe de race. Sans doute étaient-elles du même sang, de par la fantaisie de quelques princes d'autrefois. Et quel mystérieux aïeul, depuis longtemps en poussière, avait légué, à travers qui sait combien de générations, à deux jeunes femmes de castes si différentes, ses yeux persistants, ses yeux rares et admirables. Il faisait un froid mortel aujourd'hui dans ce cimetière, où il se tenait depuis un moment immobile. Et tout à coup, la poitrine de Zeyneb, sous ses voiles noires, fut secouée d'une toux déchirante. « Allons-nous-en !» dit André qui s'épouvanta. « De grâce, allons-nous-en ! Et maintenant, marchons très vite !» Avant de s'en aller, chacune avait voulu prendre une de ces brindilles de cyprès dont la tombe était jonchée. Or, pendant que Melek, toujours la moins voilée de toutes, se baissait pour ramasser la sienne, il entrevit ses yeux pleins de larmes. Il lui pardonna bien sa gaieté de tout à l'heure dans la rue. Arrivés à leur voiture, ils se séparèrent pour ne pas prolonger inutilement le péril d'être ensemble. Après leur avoir fait promettre de donner au plus tôt des nouvelles de leur retour au harem, dont ils s'inquiétaient, car la fin de la journée était proche, il s'en alla pour Eyoub, tandis que leur cocher les ramenait par la porte d'Andrinople. 6 heures maintenant. André rentrait chez lui à Péra. Oh, le sinistre soir! À travers les vitres de ses fenêtres, il regardait s'effacer dans la nuit l'immense panorama qui lui donnait cette fois un des rappels les plus douloureux qu'il eût jamais éprouvé du Constantinople d'autrefois, du Constantinople de sa jeunesse, la fin du crépuscule. Mais pas encore l'heure où les minarets allument tous leurs couronnes de feu pour la féerie d'une nuit de Ramadan. Il n'était pour le moment qu'à peine indiqué, en gris plus sombre, sur le gris presque pareil du ciel. Stamboul, ainsi qu'il arrivait souvent, lui montrait une silhouette aussi estompée et incertaine que dans ses songes, jadis quand il voyait au loin. Mais à l'extrême horizon, vers l'ouest, il y avait comme une frange noire assez nettement découpée sur un peu de rose qui traînait là, dernier reflet du soleil couché. Une frange noire. Les cyprès des grands cimetières. Et il pensait, les yeux fixés là-bas, elle dort au milieu de cet infini de silence et d'abandon, sous ces humbles morceaux de marbre que cependant par pitié j'ai fait relever et redorer. Eh bien oui, la tombe était réparée et confiée à des musulmanes, dont les soins pieux avaient chance de se prolonger quelques années encore, car elles étaient jeunes. Et puis après, est-ce que ça empêcherait cette période de sa vie, ce souvenir de jeunesse et d'amour, de s'éloigner, de tomber toujours plus effroyablement vite dans l'abîme des temps révolus et des choses qui sont oubliées de tous? D'ailleurs, ces cimetières eux-mêmes, si anciens cependant et si vénérés, à quelle continuation pouvaient-ils prétendre? Quand l'islam, menacé de toutes parts, se replierait sur l'Asie voisine, les nouveaux arrivants, que feraient-ils de cet encombrement de vieilles tombes? Les stèles de Neljibé s'en iraient alors, avec tant de milliers d'autres. Et voici qu'il lui semblait maintenant que du fait seul d'avoir accompli ce devoir si longtemps différé et d'être quitte, pour ainsi dire, envers la petite morte, il venait de briser le dernier lien avec ce cher passé. Tout était fini plus irrémédiablement. Il y avait ce soir, à l'ambassade d'Angleterre, dîner et bal auquel il devait se rendre. Bientôt l'heure de sa toilette. Son valet de chambre allumait les lampes et lui préparait son frac. Après la visite dans les bois de cyprès, avec ses petites turques en tcharchaf noir, quel changement absolu d'époque, de milieu, d'idée! Au moment de quitter sa fenêtre pour aller s'habiller, il vit des flocons de neige qui commençaient de tomber. La première neige. Il neigeait là-bas, sur la solitude des grands cimetières. Le lendemain matin, lui arriva la lettre qu'il avait demandée à ses amis pour avoir des nouvelles de leur retour au harem. 4 Ramadan, 9 heures du soir. Rentrez sains et saufs, ami André, mais non sans tribulation. Il était très tard, juste à la limite permise, et puis une de nos amies complices était étourdiment coupée. Oh, ça s'est arrangé, mais quand même, les vieilles dames de la maison et les vieilles barbes se méfient. Merci de tout notre cœur pour la confiance que vous nous avez témoignée. Maintenant, cette tombe nous appartient un peu, n'est-ce pas? Et nous irons y prier souvent quand vous aurez quitté notre pays. Ce soir, je vous sens si loin de moi, et pourtant vous êtes si près. De ma fenêtre, je pourrais voir là-bas, sur la hauteur de Péra, les lumières des salons d'ambassade où vous êtes, et je me demande comment vous pouvez vous distraire quand nous sommes si tristes. Vous direz que je suis bien exigeante. Oh, je le suis en effet, mais pas pour moi, pour une autre. Vous êtes gai en ce moment sans doute, entouré de femmes et de fleurs, l'esprit et les yeux charmés. Et nous, dans un harem à peine éclairé, tiède et bien sombre, nous pleurons. Nous pleurons sur notre vie. Oh, combien triste et vide ce soir. Ce soir plus que les autres soirs. Est-ce de vous sentir si près, si loin, qui nous rend plus malheureuses? Jenan. Et moi, Melek, savez-vous ce que je viens vous dire maintenant? Comment pouvez-vous vous distraire aux lumières quand nous, devant trois branchettes tombées d'un cyprès, nous pleurons? Elles sont là, posées dans un coffret saint en bois de la Mecque. Elles ont une odeur âcre et humide qui pénètre, qui attriste. Mais vous savez, n'est-ce pas, où nous les avons prises? Oh, comment pouvez-vous être à un bal ce soir et ne pas vous rappeler les peines que vous créez, les existences que vous avez basées, brisées sur notre route? Je ne peux m'imaginer que vous ne pensiez pas à ces choses-là quand nous, des sœurs étrangères et lointaines, nous en pleurons. Mélèque. Chapitre 32. Elle lui avait annoncé que le ramadan allait les rendre plus captives à cause des prières, des saintes lectures, du jeûne de toute la journée, et surtout à cause de la vie mondaine du soir, qui porte une importance exceptionnelle pendant ce mois de carême. Grand dîner d'apparat, nommé iftar, qui sont pour compenser l'abstinence du jour et auquel on convie quantité de monde. Et au contraire, voici que ce ramadan semblait faciliter leur projet le plus fantastique, un projet à en frémir. Recevoir une fois André Léry à Kassim Pacha même, chez Djenan, à deux pas de Madame Hüsnügül. Stamboul, en carême d'islam, ne se reconnaît plus. Le soir, fête et milliers de lanternes, rues pleines de monde, mosquées couronnées de feu, grandes bagues lumineuses partout dans l'air, soutenues par ces minarets qui alors deviennent à peine visibles tant ils ont pris la couleur du ciel et de la nuit. Mais en revanche, somnolence générale tant que dure le jour. La vie orientale est arrêtée, les boutiques sont closes. Dans les innombrables petits cafés qui d'ordinaire ne désemplissent jamais, plus de narguilés, plus de causeries, seulement quelques dormeurs allongés sur les banquettes, la mine fatiguée par l'éveil et par le jeûne. Et dans les maisons, jusqu'au coucher du soleil, même accablement que dehors. Chez Djenan en particulier, où les domestiques étaient vieux comme les maîtres, tout le monde dormait, nègres imberbes ou gardiens moustachus avec pistolets à la ceinture. Le 12 Ramazan 1322, jour fixé pour l'extravagante entreprise, la grand-mère et les grands-oncles, grippés à point, gardaient la chambre et, circonstance inespérée, Madame Hüsnügül, depuis 2 jours, était retenue au lit par une indigestion contractée au cours d'un iftar. André devait se présenter à 2 heures précises, à la minute, à la seconde. Il avait la consigne de raser les murailles pour n'être point vu des fenêtres surplombantes et de ne se risquer dans la grande porte que si on lui montrait, à travers les grilles du premier étage, le coin d'un mouchoir blanc, le signal habituel. Vraiment, cette fois, il avait peur. Peur pour elle et peur pour lui-même, non du danger immédiat, mais du scandale européen universel qui ne manquerait point de survenir s'il se laissait prendre. Il arrivait lentement, les yeux au guet. Disposition favorable, la maison de Djenan était sans vis-à-vis et donnait, comme toutes celles du voisinage, sur le grand cimetière de cette rive. En face, rien que les vieux cyprès et les tombes. Aucun regard ne pouvait venir de ce côté-là, qui était une solitude enveloppée aujourd'hui par la brume de novembre. Le signal blanc était à son poste. Il ne s'agissait donc plus de reculer. Il entra, comme qui se jette tête baissée dans un gouffre. Un vestibule monumental, vieux style, vide aujourd'hui de ses gardiens armés et dorés. Melek, seul, en tchatchaf noir, derrière la porte, et qui lui jeta de sa voix rieuse « Vite, vite, courez !» Ensemble, ils montèrent un escalier 4 à 4, traversèrent comme le vent de longs couloirs, et firent irruption dans l'appartement de Jenan, qui attendait toute palpitante, et referma sur eux à double tour. Un éclat de rire aussitôt, leur rire de gaminerie qu'elle lançait comme un défi à tous et à toutes, chaque fois qu'un danger plus immédiat venait d'être conjuré. Et Jenan montrait d'un amusant petit air de triomphe la clé qu'elle tenait à la main. Une clé, une serrure, quelle innovation subversive dans un harem! Elle avait obtusé ça depuis hier, paraît-il, elle n'en revenait pas de ce succès. Elle, Jenan, et aussi Zeneb, puis Melek, lestement, débarrassée de son tchatchaf, était plus pâle que de coutume à cause du jeûne sévère. D'ailleurs, elle se présentait à André sous un aspect tout à fait nouveau pour lui, qui n'avait jamais vu qu'en odalisque ou en fantôme. Coiffées et habillées en européenne, très élégantes. Seul détail pour les rendre encore un peu orientales, des tout petits voiles de circassie en gaze blanche et argent posés sur leurs cheveux descendaient sur leurs épaules. « Oh, je croyais qu'à la maison, vous ne mettiez pas de voile du tout, » demanda André. « Si, si, toujours, mais ces petits-là seulement. » Elles le firent entrer d'abord dans le salon de musique où l'attendaient 3 autres femmes conviées à la périlleuse aventure. Mademoiselle Bonneau de Saint-Miron, Mademoiselle Tardieu, ex-institutrice de Melek, et enfin une dame fantôme, Ubei Deanum, diplômée de l'école normale et professeure de philosophie au lycée de jeunes filles dans une ville d'Asie mineure. Pas rassurées, les deux Françaises, qui étaient restées longtemps indécises entre la tentation et la peur de venir. Et mademoiselle de Saint-Miron avait tout l'air de quelqu'un qui se dit à soi-même « C'est moi, hélas, la cause première de cet inénarrable désastre, André Léry en personne dans l'appartement de mon élève. » Elles causèrent cependant, car elles en mouraient d'envie, et il parut à André qu'elles avaient l'âme à la fois haute et naïve, ces deux demi-vieilles filles. Du reste distinguées, supérieurement instruites, mais avec une exaltation romanesque un peu surannée en 1904. Elles crurent pouvoir lui parler de son livre, dont elle savait le titre et qui les excitait beaucoup. « Plusieurs pages de vos désenchantés sont déjà écrites, maître, n'est-ce pas ?»« Mon Dieu, non !» répondit-il en riant. « Pas une seule !»« Et moi, je le préfère, » dit Jenan à André, de sa voix qui surprenait toujours comme une musique extraterrestre, même après d'autres voix déjà très douces. « Vous le composerez une fois parti, ce livre ?» Ainsi au moins il servira encore de lien entre nous pendant quelques mois. Quand vous aurez besoin d'être documenté, vous songerez à nous écrire. » André, jugeant devoir par politesse adresser une fois la parole à la dame fantôme, lui demanda le plus banalement du monde si elle était contente des petites Turques d'Asie, ses élèves. Il prévoyait quelques réponses de pédagogue aussi banales que sa question. Mais la voix sérieuse et douce, qui partait de dessous le voile noir, lui dit en pur français, ce qui ne l'attendait pas, « Trop contente, hélas ! Elles n'apprennent que trop vite, elles sont beaucoup trop intelligentes. Oh, je regrette d'être une de ces instruments qui aura inoculé le microbe de la souffrance à ces femmes de demain. Je plains toutes ces petites fleurs qui seront aussi plutôt fanées que leur camp d'Israël. Ensuite, on parla du Ramadan. Jeûne toute la journée, bien entendu, petits ouvrages pour les pauvres et lectures pieuses. Au cours de ce mois lunaire, une musulmane doit avoir relu son Coran tout entier, sans passer une ligne. Elle n'avait garde d'y manquer, ces trois petites qui, malgré le déséquilibrement et l'incroyance, vénéraient avec admiration le livre sacré de l'islam. Et leur Coran était là, marqué d'un ruban vert à la page du jour. Et puis, le soleil couché, ce sont les iftars. Dans le Selamlik, iftar des hommes, suivi d'une prière pour laquelle invités, maîtres et serviteurs se réunissent en commun dans la grande salle, chacun agenouillé sur son tapis à mihrab. Cher Dejan, paraît-il, cette prière était chantée chaque soir par un des jardiniers, le seul qui fut jeune et dont la voix du muezzin emplissait toute la demeure. Dans le harem, iftar des femmes, ces réunions de jeunes turcs, disait Neb, deviennent rarement frivoles en ramadan, alors que le mysticisme est réveillé au fond de nos âmes et les questions qu'on y aborde sont de vie et de mort. Toujours la même ardeur, la même fièvre au début, et toujours la même tristesse à la fin, le même découragement dont nous sommes prises quand après 2 heures de discussion sur tous les dogmes et toutes les philosophies, nous nous retrouvons au même point avec la conscience de n'être que de faibles, impuissantes et pauvres créatures. Mais l'espoir est un sentiment si tenace que malgré la faillite de nos tentatives, il nous reste la force de reprendre le lendemain une autre voie pour essayer encore d'atteindre l'inapprochable but. Et nous, les jeunes Turcs, ajouta Melek, nous sommes une poignée de graines d'une très mauvaise plante qui germe, résiste et se propage malgré les privations d'eau, les froids et même les coupes répétées. Oui, dit Jenan, mais on peut nous diviser en 2 espèces. Celles qui, pour ne pas mourir, saisissent toutes les occasions de s'étourdir, d'oublier, et celles mieux trempées qui se réfugient dans la charité, comme par exemple Javideh, notre voisine, cousine. Je ne sais pas si chez vous les petites sœurs des pauvres font plus de bien qu'elles avec plus de renoncement, mais dans nos harems, nous en avons tant d'autres qui l'égalent. Il est vrai, elles sont obligées d'espérer en secret, et quant à former des comités de bienfaisance, interdiction absolue, car nos maîtres désapprouvent ces contacts avec les femmes du peuple, par crainte que nous leur communiquions nos pessimismes, nos détraquements et nos doutes. Melek, dont les interruptions brusques étaient la spécialité, proposa de faire essayer à André sa cachette en cas de grande alarme. C'était derrière un chevalet d'angle qui supportait un tableau et que drapaient des brocarts. « Oh, un surcroît de précaution, dit-elle, cependant, car rien n'arrivera. Le seul valide de la famille en ce moment, c'est mon père, et il ne quittera l'île 10 qu'après le coup de canon de Maghreb. » « Oui, mais enfin, objecta André, si quelque chose d'imprévu le revenait avant l'heure. » « Eh bien, mais dans un harem, on n'entre pas sans être annoncé. » Nous lui ferions dire qu'une dame turque est ici en visite, ubeide anum, et il se garderait de franchir notre porte. Pas plus difficile que ça quand on sait s'y prendre. Non, il n'y a vraiment que votre sortie tout à l'heure qui sera délicate. Sur le piano traînaient les feuilles et manuscrits d'un nocturne que Jenan venait de composer, et André eût aimé se le faire jouer par elle, là, qu'il n'avait jamais entendu que de loin, en passant la nuit sous ses fenêtres au Bosphore. Mais non, en ramadan, on osait à peine faire de la musique. Et puis, quelle imprudence de réveiller cette grande maison dormeuse, dont le sommeil en ce moment était si nécessaire. Quant à Jenan, elle désirait que son ami se fût accoudé une fois pour écrire à son bureau de jeune fille, son bureau sur lequel jadis, Autant il n'était à ses yeux qu'un personnage de rêve. Elle griffonnait son journal en pensant à lui. Donc, elles l'emmenèrent dans la grande chambre où tout était blanc, luxueux et très moderne. Il dut regarder en leur compagnie par les fenêtres aux persiennes quadrillées toujours closes, ces perspectives familières à leur enfance et devant lesquelles sans doute la grise et lente vieillesse finirait par venir peu à peu les éteindre. Des cyprès, des stèles de tous les âges. En bas, comme dans un précipice, l'eau de la Corne d'Or, aujourd'hui terne et lourde, semblable à une nappe d'étain, et puis au-delà, Stamboul, noyée de brume hivernale. Il dut regarder aussi par les fenêtres libres qui donnaient à l'intérieur ce vieux jardin si haut muré que Jenan lui avait décrit dans ses lettres. Un jardin tellement solitaire, lui disait-elle, que l'on peut y errer sans voile. D'ailleurs, chaque fois que nous y descendons, nos nègres sont là pour éloigner les jardiniers. En effet, dans le fond là-bas, où les platanes enchevêtraient leurs énormes ramures dépouillées, tristement grisâtres, cela prenait des allures de forêt prisonnière. Elle devait pouvoir se promener là-dessous sans être aperçue de personne au monde. André bénissait le concours d'audace qui lui permettait de connaître cette demeure si interdite à ses yeux. Pauvres petites amies de quelques mois, rencontrées sur le tard de sa vie errante et qu'il allait fatalement quitter pour jamais. Au moins, comme cela, quand il repenserait à elle, le cadre de leur séquestration s'indiquerait précis dans sa mémoire. Maintenant, c'était l'heure de se retirer, l'heure grave. André avait presque oublié au milieu d'elle l'invraisemblance de la situation. À présent qu'il s'agissait de sortir, le sentiment lui revenait de s'être faufilé tout vif dans une ratière dont l'issue après son passage se serait rétrissée et hérissée de pointes. Elles firent plusieurs rondes d'exploration. Tout se présentait bien. Le seul personnage de trop était un certain nègre du nom de Youssouf qui gardait avec obstination le grand vestibule. Pour celui-là, il fallait imaginer sur le champ une course longue et urgente. « Oh, j'ai trouvé !» dit tout à coup Melek. « Rentrez dans votre cachette, André. Nous allons le faire comparaître ici même. Ce sera un comble !» Et quand il se présenta, « Mon bon Youssouf, une commission vraiment pressée. Monte à Péra bien vite pour nous acheter un livre nouveau dont je vais t'inscrire le nom sur une carte. » Au besoin, tu feras tous les libraires de la grenouille, mais surtout, ne reviens pas bredouille. Et voici ce qu'elle écrivit sans rire. Les Désenchantés, le dernier roman d'André Léry. Une ronde encore dans les couloirs, après de nouveaux ordres jetés aux uns et aux autres pour les occuper ailleurs. Puis elle vint prendre André par la main, d'une course folle l'entraîna jusqu'en bas, et un peu nerveusement le poussa dehors. Lui s'en alla, rasant de plus près que jamais les vieilles murailles, et se demandant si cette porte, fermée peut-être avec trop de bruit, n'allait pas se rouvrir pour une bande de nègres avec revolver et bâton lancés à sa poursuite. Elles lui avouèrent, le lendemain, leurs mensonges au sujet de ces petits voiles de circassie. À la maison, elles n'en mettaient point. Mais pour une musulmane, montrer à un homme tous ses cheveux, montrer sa nuque surtout, est plus malséant encore que montrer son visage, et elle n'avait pu s'y résoudre.